le contrat de travail à durée indéfinie. Voilà, c'est des petites...
Les trois exposés précédents étaient à peu près dans une certaine cohérence, disons, débattaient un peu des mêmes thèmes. Dans la contribution que je présente, qu'en principe je vais présenter avec deux collègues qui ne sont pas là, hein, Giorgio et Libéraux, nous allons aborder donc un autre thème qui, bien sûr, rejoint à certains égards et, est aussi en cohérence ou en perspective avec ce qui a été dit, mais sur un autre plan. Donc, c'est le thème qu'on a intitulé dans notre réunion préparatoire « Création, innovation et technologie ». Alors, nous avons identifié cinq points pour essayer de faire un peu une synthèse, d'évoquer ce qui a été dit au cours de cette année dans tous ces séminaires, et introduire le débat et préparer les perspectives futures de l'année prochaine. Alors, premier point, première observation, l'innovation, la création, le progrès technique sont des facteurs importants et permanents du système capitaliste depuis les débuts de l'économie politique, donc de Smith à Schumpeter, en passant par Marx. Alors, trois temps qui me paraissent importants, qu'il est important de souligner. D'abord Smith, donc, qui distingue ce qu'il appelait à peu de choses près l'apprentissage, hein, dans le sens où on le prend aujourd'hui, hein, c'est-à-dire l'apport de connaissances par la répétition, par l'activité, et l'innovation qui vient de l'extérieur, que Smith attribuait aux savants. Il y a quelques lignes très très belles de Smith sur les savants. Donc, dans ce système, l'innovation, la création sont exogène, l'apprentissage, disons, tombe un peu du ciel, et les savants se situent à l'extérieur d'entreprise. Avec Schumpeter, disons, le premier Schumpeter, le Schumpeter de la théorie de l'évolution économique 1910, donc, on est dans le même système, l'innovation vient de l'extérieur, elle vient d'un personnage particulier, la figure d'entrepreneur, qui a des convictions, qui a une vision de l'avenir, mais tout cela, disons, n'est pas rationalisable, hein. L'entrepreneur vit dans l'incertitude, dans la conviction, dans la prospective, en quelque sorte, et donc l'innovation et la création viennent de l'extérieur du système. Ensuite apparaît le système de la grande entreprise. Ça, c'est Schumpeter numéro 2, donc c'est le Schumpeter de capitalisme, socialisme, démocratie. C'est les années 30 et 46-48 pour la publication du bouquin. La figure de la grande entreprise avec une internalisation de tout ce qui est innovation et une routinisation de l'activité de recherche. Routinisation qui, selon Schumpeter, donc risque de dégénérer en comportement bureaucratique, d'où la crainte ou la prospective de la fin du capitalisme, selon Schumpeter. Et en même temps, donc, qu'émerge la figure de la grande entreprise, donc dans les années 20 et 30, selon Schumpeter, sous l'impulsion de Taylor et de Ford, donc, les entreprises s'efforcent de maîtriser les processus productifs et séparent, on le sait, le travail d'exécution du travail d'organisation de la production qui est pris en charge par les ingénieurs. Donc, au terme de cette évolution historique, les entreprises dont la figure exemplaire est la grande entreprise oligopolistique Fordiste, en quelque sorte, s'efforcent de, et parviennent, semble-t-il, à garder en interne le contrôle du processus productif, de son organisation, et le contrôle de l'innovation. Depuis les années 70 et 80, c'est mon deuxième point, l'importance de la création et l'innovation s'intensifie du fait de plusieurs facteurs. Premièrement, le développement de l'éducation, Carlo l'a évoqué. Deuxièmement, une articulation plus étroite de la science avec la technologie et avec l'industrie, c'est ce qu'on appelle l'émergence de la technoscience. Troisième point, une volonté d'automatisation et de robotisation accrue, donc le post-fordisme. Quatrièmement, la recherche systématique de gains de productivité. Cinquièmement, la globalisation et l'intensification de la concurrence qui en résulte. Et sixièmement, la montée en puissance progressive de l'informatique dans les années 70-80, puis des technologies de la communication, puis de la convergence du numérique, avec deux caractéristiques. Deuxièmement, un extraordinaire développement donc de la puissance de traitement de ces outils. Et deuxièmement, le développement d'outils qui sont ce qu'on appelle des systèmes génériques, des technologies génériques, c'est-à-dire que l'on peut utiliser dans n'importe quel secteur d'activité, que l'on peut adapter et qui ont donc des conséquences dans tout le système productif dans son ensemble. Troisième point, Aujourd'hui, donc, le travail créatif occupe une place plus importante et le modèle de l'époque industrielle semble révolu. D'abord parce que la dichotomie entre exécution et organisation du travail s'estompe, se brouille. Deuxièmement, parce que le principe du contrôle interne par la grande entreprise des processus d'innovation et de changement est dépassé. Alors pourquoi ? D'abord parce que l'exécution dans les activités de service contemporaines, je ne développe pas mais on pourrait développer, l'exécution n'est pas séparable d'un travail de création. Ce qu'on appelle habituellement les routines d'exécution, ce n'est jamais la reproduction strictement à l'identique des gestes et de l'activité précédente. Il y a des interactions avec l'environnement, avec le client, et tout cela, disons, produit des évolutions, des transformations progressives. Donc la routine, ce n'est pas la répétition, la routine, c'est aussi du changement. Deuxième raison, la concurrence accrue et globalisée, dans un contexte où l'innovation joue un rôle important. Tout cela crée des incertitudes plus nombreuses, plus fortes, auxquelles les agents productifs doivent s'adapter. Le monde de la production est en permanence dans le changement, dans la recherche d'amélioration, dans la prise en compte de nouvelles interfaces et dans celle de contraintes, dans la prise en compte de contraintes ou d'objectifs nouveaux. Troisième raison également, de nombreux secteurs sont aujourd'hui intensifs en technique et la concurrence repose sur la maîtrise ou la capacité à concevoir et diffuser des solutions nouvelles. Le rythme du changement technique, le rythme d'innovation s'accélère, on est dans un cycle d'innovation permanente. Tout cela fait que la connaissance est au cœur du système productif et l'on peut en distinguer trois manifestations très différentes. Alors que ça rejoint un tout petit peu le train cognitif, mais ce n'est pas tout à fait ça. Trois manifestations très différentes. Premièrement, l'existence d'un travail cognitif routinier, de caractère donc néo-tayloriste, hein, le travail sur écran dans les compagnies d'assurance. Deuxièmement, le recours à la connaissance pour s'adapter, c'est-à-dire transformer, faire évoluer les routines, les contextualiser, s'adapter donc à l'environnement. Et troisièmement, le recours à la connaissance pour changer, créer de nouveaux processus, pour innover et inventer. C'est le travail de conception. Quatrième point, dans ces conditions, le capitalisme est confronté à des contraintes inédites et fortes. Premièrement, première contrainte, la nécessaire prise en compte que la valeur est fondée sur la connaissance, ça a été évoqué à plusieurs reprises, je n'y reviens pas. Deuxièmement, les aspirations plus élevées des salariés et le fait que le travail vivant est crucial, c'est ce que nous venons de voir avec Yann. Troisièmement, les biens communs et les complémentarités liées à la connaissance, donc le phénomène des externalités. Et quatrièmement, la nécessité de s'adapter souvent et rapidement, donc la question de la flexibilité. Et les entreprises sont aujourd'hui en crise du fait de la nécessité dans laquelle elles se trouvent d'essayer de maîtriser un processus qui leur échappe en partie et donc de pallier ces incertitudes et ces difficultés. Alors les entreprises répondent à cette incertitude et au changement donc par des efforts pour rendre répétitif et prescrire ce qui peut l'être. Elles répondent en imposant des objectifs de résultats et en créant des systèmes de responsabilisation. Elles répondent par un effort systématique d'opérationnalisation de la gestion des connaissances, c'est ce qu'on appelle le knowledge management. Elles répondent par des politiques de brevets et de gestion plus systématique de la R&D. Elles répondent par un intéressement financier ou des manœuvres spécifiques pour maîtriser la mobilité des acteurs innovants. Elles répondent par le développement de la gestion par projet, par la multiplication des alliances, des fusions-acquisitions, la mobilité du capital, des politiques systématiques de réduction des coûts, et enfin par la captation et la récupération des connaissances valorisables ou des innovations apparues hors de l'entreprise. L'efficacité de ces dispositifs est limitée. Et en particulier, la capacité des entreprises à contrôler et à exploiter donc les flux de connaissances et les acteurs qui maîtrisent les flux de connaissances se heurte à un certain nombre d'obstacles, car la création et l'innovation débordent les frontières de l'entreprise. Si bien que les entreprises se comportent de façon parasitaire. Elles se comportent de façon parasitaire sur les systèmes de la connaissance, qu'elles essayent donc de capter par tous les moyens, et elles essayent de récupérer toutes les occasions de déposer les brevets, donc allusion à l'évolution, disons, des pratiques encadrant le dépôt des brevets, et elles essayent aussi de priver les concurrents de la possibilité d'exploiter eux-mêmes des brevets, etc., etc. Donc il y a une espèce de double bind entre d'un côté la reconstitution ou la constitution de nouvelles enclosures autour de la connaissance, et de l'autre côté, en même temps, la nécessité de préserver la flexibilité et la mobilité. Donc, tout cela se traduit par un processus de récupération, de recyclage, que nous pourrons évoquer au cours de la discussion. Cinquième point, et dernier point, ce qui se passe dans l'industrie du logiciel et du software a une signification importante dans ce contexte. D'abord, parce que l'industrie informatique, dont le développement est en grande partie endogène, occupe une place centrale dans le système technique contemporain. Deuxièmement, parce que cette industrie est à la fois intensive en connaissances, elle constitue un outil de traitement des connaissances et elle produit les dispositifs de traitement de l'information que tous les autres acteurs et tous les autres secteurs vont utiliser. Enfin, parce que l'industrie informatique, et celle du software en particulier, produit les langages et de la technique moderne, c'est-à-dire que l'extension des usages de l'informatique se réalise à mesure que ce secteur produit des algorithmes, des programmes et des langages nouveaux permettant de créer des utilisations nouvelles. Alors cette industrie n'est certainement pas une industrie à laquelle toutes les autres ressemblent, elle ne peut pas être considérée comme fournissant le business model du capitalisme cognitif, mais ce qui s'y passe est un exemple important et une illustration majeure des difficultés de fonctionnement d'une industrie capitaliste dans laquelle la connaissance et la puissance d'innovation sont déterminantes. Alors deux paradoxes, si j'ai encore une minute, deux paradoxes pour illustrer cela. Premier paradoxe, l'émergence du libre, du logiciel libre, qui signale l'existence donc d'une zone productive non capitalistique, que certains qualifieront de surprenante, et d'autres, voire même, d'aberrante. Or, il se trouve, et on l'a vu ici, que le libre est plus efficient que les systèmes d'exploitation informatique, marchands, Windows, Apple. Et le logiciel libre est utilisé, il est recyclé, c'était l'aspect parasitaire et recyclage que j'évoquais tout à l'heure, le logiciel libre est utilisé et recyclé par des entreprises capitalistes, et il est donc absorbé dans le système capitaliste. Alors, compte tenu des spécificités techniques de la production du logiciel, c'est-à-dire la complexité de la production de ce type de produit, contrairement à ce qu'on peut croire, en fait, Microsoft est un intrus. Microsoft est un intrus parce que Microsoft arrive à valoriser quelque chose qui réellement, en fait, a une efficience inférieure à celle des logiciels libres que l'on trouve par ailleurs. Et ce caractère d'intrusion, ce caractère extraordinaire de la présence maintenue et pérenne de Microsoft résulte d'un accident d'histoire que l'on connaît. On connaît l'histoire donc de Microsoft et les débuts de Microsoft, et un phénomène de verrouillage, de lock-in, habilement et opportunément produit par Microsoft, qui explique la montée de sa position dominante qui est entretenue, entre autres, par une politique extrêmement forte de marketing, par des alliances, par des innovations, beaucoup plus que par des innovations technologiques. Deuxième paradoxe, IBM. IBM, qui investit beaucoup, vous savez les uns les autres, donc le budget de recherche et développement d'IBM est considérable, IBM investit beaucoup donc dans la production de logiciels, or IBM donne des programmes au secteur libre. Ce sont des programmes sur lesquels IBM a investi beaucoup d'argent, Et en plus des programmes sur lesquels IBM va continuer à investir, beaucoup moins, mais va continuer à investir. Alors pourquoi? Il faut savoir que le développement, la commercialisation d'un logiciel, c'est à peu près 10 fois le coût de sa production technique, de sa mise au point technique. Et donc c'est une somme considérable qui prend un temps qui n'est pas contrôlable, c'était l'un des exposés qui a été fait ici qui l'a montré, et donc il n'est pas raisonnable d'un point de vue commercial et financier, capitaliste, disons, de procéder à l'exploitation systématique des logiciels mis au point chez IBM. Alors IBM préfère donner ses logiciels à des entreprises du secteur libre pour ensuite, une fois que le logiciel est mis au point, et dans la mesure où elle le connaît très bien, proposer ses services et développer la vente de ces services. Donc il y a un phénomène de parasitage du développement de la connaissance du côté du secteur libre au profit donc, en l'occurrence, d'IBM et précédemment au profit de Microsoft.
Entre 30 secondes.
Les entreprises, je conclue, sont conduites donc à naviguer entre des contradictions qui sont celles du capitalisme, plus particulièrement la discordance entre les biens sociaux, les biens communs, les biens publics et la logique du profit, et d'autre part, donc, naviguer entre la valeur